Jérémy Bader, bienvenue, je t'invite à venir sur la scène. On peut l'applaudir. Il est venu avec deux étudiants d'une école dont il est le responsable. Donc en fait, je me suis dit, j'ai plein de choses à dire sur lui, mais il y a tellement de choses à dire, donc on va le laisser prendre le meilleur pour nous le partager. Ça va comme ça? Tu te présentes? Sois béni.
Merci infiniment, bonjour à chacun. C'est un privilège d'être avec vous ce matin. Et comme Diane l'a dit, merci d'ailleurs à David et Diane pour cet accueil et pour le leadership. Vraiment, c'est un privilège d'être ici. Je me réjouissais dans la prière aussi de venir être avec vous ce matin. Et je sais que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Après des temps de louange comme ça, on a juste envie de se taire hein, et puis juste admirer Dieu. Mais je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Amen. Plus proche de vous, j'ai l'impression d'être tout éloigné. Magnifique. Donc, pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Jérémy Bader. Je suis marié à Neuline. Je suis père de deux enfants, Aiden et Eliana, et d'un troisième qui arrive exactement dans un mois. Donc, on se réjouit. Et je vis sur le côté canton de Fribourg. Je suis à l'église du Gospel Center d'Oron depuis déjà quelques années. Je suis aussi, comme l'a dit Diane, je suis le directeur de Reformatio. Reformatio, c'est, peut-être vous l'avez entendu parler, c'est une école biblique à plein temps qu'on a commencé il y a 2 ans. Et j'ai avec moi Timothy et Mathieu qui sont en deuxième année. Donc la deuxième année, c'est un stage. Timothy fait sa deuxième année avec moi. Et puis Mathieu avec Kent Traxel. Et on vit des choses extraordinaires dans cette école biblique. Notre objectif, c'est de former des revivalistes, des gens qui portent le réveil, des hommes et des femmes qui connaissent intimement la présence de Dieu. Vraiment, qui savent, chaque journée, on la commence dans la présence, une heure et demie de louange, tous les jours, parce qu'on croit que c'est le fondement de nos vies. Amen. Et vous savez que vous êtes directeur d'une école biblique et qu'il y a de la louange. La présence de Dieu vous invite beaucoup d'entretiens pastoraux. Alléluia. Parce que Dieu, c'est le meilleur, Jésus, c'est le meilleur des pasteurs. Il y a tellement de trucs des fois qu'on se dit qu'on a besoin d'adresser, mais simplement dans la présence, Dieu il vient faire son œuvre. Donc c'est vraiment glorieux. Et on veut aussi qu'ils puissent grandir dans la révélation du Père, du Fils et du merveilleux Saint-Esprit, et qu'ils puissent être équipés et activés pour marcher dans la puissance de Dieu, dans les dons de l'Esprit, avec audace. Et on voit des témoignages juste extraordinaires. C'est juste glorieux. Donc peut-être un jour, si vous allez sur notre site, il y a des témoignages, certains témoignages qui ont été enregistrés. Je sais qu'il y a celui de Tommy qui a été enregistré. Mathieu, on n'a pas encore fait le tien. On va planifier ça. Voilà, et je suis aussi membre de l'équipe apostolique de Gospel Wave. Gospel Wave, c'est une œuvre qui regroupe différentes églises, tous les Gospel Centers. On en a 14 aujourd'hui. Et des œuvres et des ministères tels que l'IMG, Europe Shall Be Saved, des AI 61, Zone Prophétique, l'Institut de l'Honneur. Je sais que vous suivez l'Institut de l'Honneur aussi ici. REMA, voilà, différentes choses. Et ça fait bientôt 10 ans que je travaille avec Jean-Luc Traxel et l'IMG. Bon, j'ai marié la fille à Jean-Luc, donc c'est plus facile. Mais voilà, 10 ans que je suis revenu, j'ai eu le privilège de pouvoir être formé aux États-Unis à l'école de Bethel, à Reading, l'école de Bill Johnson, pendant 2 ans là-bas, et je suis revenu ici. Dieu m'a appelé de retourner dans mon pays, et puis de pouvoir servir au Gospel Center d'Oron et de servir l'IMG. Et je le fais vraiment avec une grande joie. Et depuis 10 ans dans l'IMG, où mon cœur, c'est de voir une plus grande manifestation de la guérison, dans toutes les nations, dans toutes les dénominations, de voir l'évangile de Jésus-Christ être prêché partout. Et ça, c'est un grand privilège. Et j'ai le privilège aussi d'être issu d'une lignée de 5 générations de pasteurs. Donc ça, c'est toujours une grande fierté quand je le dis. Mon père, Pierre Bader, est pasteur dans l'église réformée vaudoise depuis des années. Et il est aussi directeur de l'ESU, l'équipe de soutien d'urgence pour le canton de Vaud. Peut-être vous en avez entendu parler. Souvent, ils sont dans les médias. Il a dû gérer, il n'y a pas longtemps, l'année passée, la situation de prise d'otage à Yvenant. Vous voyez lequel je parle? On n'en a pas 150 hein, en Suisse. Hein. Bah, lui, il était sur le coup. Voilà. Et mon grand-père, Guy Chautan, et sa femme Denise étaient pasteurs de la cathédrale de Lausanne. Et ça, après, j'ai eu plusieurs générations là-dedans. Et c'est un grand privilège là-dedans. Mais je ne le dis pas. Ma vie, en fait, pour donner un point de témoignage, ma vie, je l'ai passée à l'église. Quand on est fils de pasteur, il n'y a pas trop le choix. On est comme ça. En plus, nous, on vivait à la cure. Donc, la maison qui est littéralement la maison la plus proche de l'église. Donc, on était à côté, j'étais réveillé par les cloches. Voilà, il n'y a pas le choix, on va à l'église. Quand le papa y va, la maman, toute la famille, on y va. J'ai grandi à l'église et j'ai dû louper dans ma vie, honnêtement, j'ai réfléchi à ça, j'ai dû louper dans ma vie max 3 dimanches à la suite d'aller au culte. J'ai toujours été, je pense que les 3 dimanches, c'était parce que j'étais en vacances. Mais j'ai toujours été fidèle, j'ai jamais quitté ça. J'ai donné ma vie très tôt, ma vie à Jésus. J'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a bientôt 20 ans, dans le cadre d'un camp de Pâques. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des camps de Pâques? Un vieux camp de Pâques à la caserne de Bure. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là? Non, il n'y a que moi. On était quand même 800, donc on va en retrouver. Mais voilà, c'était là-bas, c'était il y a longtemps. C'était extraordinaire. Et bientôt plus de 18 ans aussi que j'ai des rôles dans le leadership. Depuis que j'ai l'âge de 15 ans, j'ai commencé à servir. À 15 ans, j'étais leader de mon groupe de jeunes. Et puis j'ai toujours continué. Dieu est bon, il m'a gardé sur la route, il m'a gardé sur le chemin, sans jamais faire, on en discutait dans la voiture, il disait que j'ai toujours été dans ma vie très carré. Alors effectivement, j'ai toujours été très carré parce que j'ai toujours voulu suivre Dieu. Et j'ai pu servir dans les groupes de jeunes, j'ai pu servir dans la RJ, au côté de David. C'était un grand privilège, après comme pasteur jeunesse et maintenant directeur de réformation. Mais je dis ça en aucun cas pour me vanter. Je vous parle de mon témoignage parce que j'ai envie de vous parler de la plus grande erreur que j'ai faite aujourd'hui. Et je vous en parlais dans ce témoignage-là. Mais avant de parler de ça, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de quelque chose que Dieu a commencé à remuer dans mon cœur depuis plusieurs mois, bientôt 2 ans, qu'il est venu faire quelque chose dans mon cœur. Ce n'est pas quelque chose que j'ai désiré méditer ou que j'ai désiré étudier, mais que c'est quelque chose que le Seigneur il est venu déposer dans mon cœur. Et je n'ai presque pas le choix que d'y penser chaque jour, de me remettre devant Dieu chaque jour et de réfléchir à ça et de faire, de prier par rapport à ça. C'est, comme je dis, ce n'est pas un sujet que j'ai choisi. Dieu dépose, il y a des fardeaux qui sont là. Et c'est un sujet qui est venu saisir mon âme et mon esprit, comme il y a peu de sujets qui viennent saisir. Et je suis poussé jour après jour à chercher ça. Et ça vient, ça se trouve, ce sujet-là, dans Matthieu 7. Si vous avez vos Bibles, comme vous êtes à l'église, vous avez tous vos Bibles, amen. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir dans Matthieu 7. C'est les versets 13 à 14 où il est dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Cette porte étroite, elle est venue saisir mon esprit depuis longtemps, de dire « Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette porte étroite qui est devant nous? Si Jésus est autant strict par rapport à ça, autant cette phrase, cette porte étroite et ce chemin spacieux, c'est quoi, Seigneur, cette porte étroite? Elle ressemble à quoi? Et plus j'avance dans ma vie et dans mon ministère, plus en fait je réalise que la porte étroite, en fait, elle devient de plus en plus étroite. Vous savez, comme je l'ai dit, hein, c'est pour ça que ça fait partie de mon témoignage. J'ai grandi dans l'Église et j'étais persuadé en grandissant que plus j'allais avancer dans la vie, plus j'allais avancer dans ma compréhension de qui est Dieu. Pour vous dire, j'ai tellement eu faim et soif de Dieu qu'un jour, mes parents ils m'ont envoyé en Allemagne, bon, parce que j'étais en train de louper le gymnase, gloire à Dieu. Après, j'ai arrêté le gymnase, mais j'ai fait menuisier. Puis ils m'ont envoyé en Allemagne pour apprendre l'allemand. Je n'ai jamais appris l'allemand. Mais ce n'est pas grave, j'ai été envoyé dans la famille, c'était la cousine de ma maman. Et ils n'avaient pas de chambre dans la maison, ils m'avaient mis dans une petite caravane au fond du jardin. Et puis ben voilà, je ne connaissais pas l'allemand, je ne parlais pas, j'avais personne. Mais je me suis réfugié là-dedans. Et j'ai commencé à lire, parce que j'avais cette faim et soif de Dieu. J'ai commencé à lire depuis la Genèse. Et Dieu est venu saisir ma vie. Et je l'ai lu en 3 semaines, la Genèse à l'Apocalypse. En lisant 8 heures par jour, bien entendu, hein, ce n'est pas en 30 minutes, hein. Donc ma vie, mes journées, je faisais ça. Et j'étais saisi par ce désir-là. Et je pensais en fait que plus on comprend cette parole de Dieu, plus on avance dans la vie, plus on a ces rencontres avec Jésus, plus la vie finalement, elle va être facile. Plus la vie, en fait, il y aura une certaine compréhension qu'on aura qui fera qu'on avancera avec une presque une sagesse où ça ira. Vous voyez ce que je veux parler? Et moi, j'ai grandi où j'étais persuadé que ça serait ça, en fait, que plus j'allais avancer, plus, en fait, ma vie chrétienne serait facile. Et j'ai réalisé qu'en fait, plus j'avance dans ma vie, plus cette porte étroite, elle devient étroite. Et plus, en fait, le chemin spacieux, il devient large. Plus, en fait, les choix qui sont dans ma vie, il n'y a plus qu'une seule solution, il n'y a plus qu'un seul endroit où je peux aller, c'est passer par cette porte étroite. La porte étroite, elle ne se rétrécit pas pour m'empêcher d'y passer. Elle se rétrécit car le prix à payer est plus grand et plus coûteux. Peut-être certains d'entre vous, vous connaissez un peu les revivalists de l'époque. Je pense que la majorité, vous connaissez William Booth de l'Armée du Salut. Vous connaissez peut-être Catherine Kuhlman, Smith Wigglesworth, John G. Lake, tous ces Reinhard Bonnke, bien entendu. Tous ces hommes, ces femmes de Dieu qui ont payé un prix extraordinaire pour nous permettre d'être là où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'appuie sur le prix, sur le sacrifice des gens qui étaient avant nous. Moi, quand je regarde la vie de mes grands-parents, Guy et Denise, et je vois le prix payé dans leur vie, je me dis, Seigneur, c'est extraordinaire. Et l'héritage que j'ai, Dieu m'avait parlé une fois, il m'a dit, Jérémie, tu es là où tu es, parce que j'ai honoré le sacrifice de tes ancêtres. J'ai honoré le sacrifice de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, etc. Et il est venu aussi me dire, il a dit, Jérémie, tu sais, le prix qu'ils ont payé, sache-le. Si tu veux aller plus loin, tu devras payer un prix plus grand. Des fois, moi, je pensais qu'en fait, ce serait suffisant de m'appuyer sur ce qu'ils ont fait. Mais le prix qu'on doit payer pour aller plus loin dans nos vies, il est plus grand, il est plus coûteux. Je m'étais dit que ça allait être plus facile de suivre Christ parce que j'ai ces révélations, j'ai toutes ces percées dans ma vie. Et j'ai réalisé en fait qu'il y a quelque chose de plus à avoir. Jésus est venu rappeler quelle est la définition du prix à payer. Dans Matthieu 16, il a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Il y a 20 ans, quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Il y a quand même une dimension où j'avais 15 ans environ, ouais, peut-être un peu plus jeune, ouais, 13-14 ans. Et il y a une partie où je comprenais certaines choses. Hein. Quand on grandit, quand on va à l'église, on comprend une certaine dimension. Et si, quand j'ai pris cette décision de suivre Jésus, je savais qu'il y avait quelque chose que j'avais compris. Pour parler un petit témoignage, j'ai un fils qui a, aujourd'hui, il a 5 ans, il s'appelle Aiden. Et quand Dieu est venu me parler de ce sujet-là, Il avait environ 2 ans et demi. Et le Seigneur, avec ma femme, il est venu nous toucher profondément par rapport à ça, par rapport à ce que je vais vous parler aujourd'hui. Et on a commencé à vraiment beaucoup plus prier en famille, à chercher la présence de Dieu, à prendre aussi la Sainte Cène ensemble et à inviter aussi notre fils, ma fille n'était pas encore née, à pouvoir participer à ces moments-là, en fait, dans la présence et l'intimité de Dieu. Et un jour, alors que ma femme, elle mettait mon fils au lit, il avait 2 ans et demi, elle lui a posé la question, elle lui a dit, Aiden, est-ce que tu veux lui donner ta vie à Jésus? Et puis, il a réfléchi, puis il a dit oui, alors ils ont prié ensemble, et il a vraiment eu ce cœur à cœur. Puis vous comprenez hein, de ce que je veux dire, à 2 ans et demi, on ne comprend pas tout, de loin pas. Mais il y avait une dimension qu'il avait compris, une dimension que Jésus était vivant, et qu'il voulait l'accueillir dans sa vie, et il a pris ce choix-là. Et 2 nuits plus tard, ma femme, elle lui a dit, « Est-ce que tu veux ?» On lui a parlé du Saint-Esprit, tous les soirs, je lui lis la Bible, et on a parlé du Saint-Esprit, il a dit, « Eden, est-ce que tu veux recevoir ce Saint-Esprit-là » Et c'est né, en fait, d'une discussion que j'avais eue à ma femme, où j'avais entendu un homme, un prophète aux États-Unis, qui parlait qu'il n'avait pas de souvenir de n'avoir pas parlé en langue. Et ça, c'est pour toutes les familles avec des petits-enfants. Hein. Vraiment, je veux libérer ce témoignage-là. Il se souvenait pas ne jamais comment dire ça. Il se rappelle pas, il a pas de souvenir où il parlait pas en langue, voilà. Et je me suis dit si c'est possible pour lui, ça doit être possible pour mes enfants aussi. Et ma femme a prié avec lui et le Saint-Esprit est venu le rencontrer et à 2 ans et demi il a commencé à parler en langue. Et on se dit mais gloire à Dieu pour ça. Et 2 nuits plus tard, alors que ma femme est allée le chercher, c'est toujours avec ma femme, je sais pas pourquoi, c'est jamais avec moi. Moi, je prie avec lui, mais là, elle a eu des bons moments avec mon fils. Et elle va le chercher au lit comme ça. Elle va le matin, puis elle fait « Aiden, t'as bien dormi ?» Puis il fait « Oui ». Jésus, il est venu dans ma chambre hier soir. Et puis, explique-nous. On lui a demandé, il dit, il est venu, il m'a regardé, il a dit, Aiden, n'aie pas peur, je t'aime. C'était une vraie rencontre qu'il a eue, où il était profondément touché. Et deux semaines plus tard, avec ma curiosité d'adulte, j'ai dit, Aiden, j'ai besoin de savoir quelque chose. Il ressemblait à quoi, Jésus? On a tous cette question-là. Et là, il a réfléchi pendant 2 secondes. Et il a donné la réponse la plus théologique qui soit possible, sans le savoir. Il a réfléchi, puis il a dit, il est bon. Et c'était sa réponse à quoi ressemble Jésus. Il est bon. Quand Moïse a demandé, montre-moi ta gloire, Dieu lui a dit, je te montrerai ma bonté. Et il a eu cette révélation-là de ce Jésus. Et il y a 20 ans, quand j'ai donné ma vie à Jésus, comme Aiden, comme mon fils, je ne comprenais pas une réalité. Mais à force, avec les années, on comprend certaines choses. Et des choses que j'ai comprises dans ma relation avec le Seigneur, j'ai commencé à comprendre ce merveilleux évangile, cette bonne nouvelle qui nous a été prêchée, qui est toujours prêchée. J'ai compris le jour où j'ai donné ma vie à Jésus qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, que j'ai renoncé à mon ancienne manière de vivre, que j'ai fermé la porte au péché, que j'ai décidé de l'aimer plus que tout, de ne plus vivre pour moi, mais de vivre pour lui, que j'ai abandonné à ce moment-là ma propre justice, que je me suis soumis à sa volonté, que j'ai choisi de prendre ma croix chaque jour, que j'ai changé de manière de penser, que Dieu vient renouveler mon intelligence, que je suis entré dans un combat spirituel pour ma vie, que ce n'est pas juste gagner, qu'il y a des enjeux qui sont là, que je suis né de nouveau, que je suis baptisé du Saint-Esprit, que j'ai obéi en me faisant baptiser d'eau, où j'ai été purifié de tous mes péchés, où j'ai pu m'identifier à la mort et à la résurrection de Christ. Je me nourris tous les jours de la parole de Dieu, que j'ai rejoint une famille spirituelle, une église, que j'ai commencé à témoigner de Jésus autour de moi, que j'ai commencé à vivre avec un but éternel. J'ai été libéré du pouvoir du péché à ce moment-là, du péché. J'ai commencé à ressentir une vraie tristesse quand je péchais. Et depuis ce jour, j'ai cherché la sainteté. J'apprends à pardonner, je développe une vie de prière, j'apprends à me repentir chaque jour. Je gère mes biens, en tout cas j'essaye selon les principes du royaume. Je souhaite devenir serviteur des autres. J'ai découvert mes dons spirituels, comment fonctionner là-dedans. Je ne vis plus pour ce monde, mais pour l'éternité. Je suis en transformation constante par le Saint-Esprit. Je vis pour plaire à Dieu, pas aux hommes. J'ai commencé à être brisé pour les perdus. Et j'attends avec espérance le retour de Jésus. Et cette décision-là, il y a 20 ans, ça a été un renversement total dans ma vie. C'est une révolution intérieure, c'est un échange glorieux. Tu ne vis plus pour toi, tu vis par lui, pour lui et en lui. Ça, c'est la merveilleuse décision qu'on prend lorsqu'on choisit Jésus. Aujourd'hui, si tu es là pour la première fois, je vais te donner l'opportunité de pouvoir prendre cette même décision. Peut-être que tu fréquentes l'église depuis longtemps, mais cette décision, tu ne l'as jamais prise. Comme moi, il m'a fallu 15 ans de vie dans une église pour réaliser que j'avais besoin de ce Jésus-là. Aujourd'hui, si tu es là, je vais te donner dans quelques minutes l'opportunité de prendre cette décision-là. A.W. Tozer, un de ces autres hommes de Dieu qui a payé un prix, c'est un auteur et prédicateur du XXe siècle, il explique cet échange divin comme cela. Il dit « Le seul péché que Jésus a connu, c'est le nôtre. Et la seule justice que nous pourrons avoir, c'est la sienne. » C'est ce merveilleux échange qu'il veut faire aujourd'hui. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Mon seul désir dans ma vie, c'est de trouver la vie en Jésus. Le thème de mon message que j'ai donné à David, c'était une vie en feu. Et c'est pleinement dans cette réalité-là. Une vie en feu, ce n'est pas seulement une manifestation de la puissance de Dieu partout où on va, d'amener ce royaume de Dieu là où on va, de cette réalité, de voir le ciel sur la terre. Une vie en feu, c'est d'aller chercher cette vie en lui, que en lui. Mais je comprends aussi qu'il faut que j'y renonce à cette vie. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Que la seule façon de trouver la vie est de passer par cette porte étroite. Je vous ai parlé de la plus grande erreur de ma vie, celle que j'ai jamais faite, la plus grande erreur de ma vie. Et malgré une vie où je ne suis jamais sorti du chemin qu'est Christ, où je n'ai jamais fait de crise d'adolescence, gloire à Dieu, il y a de l'espoir pour vos enfants. Mes sœurs, c'était une autre histoire. Mais Dieu m'a gardé, je crois profondément, parce qu'il y avait besoin. Je suis passé pendant des années à côté de la plus belle chose qui se trouve sur le chemin. La chose la plus importante et la plus précieuse. Et celle qui est devenue ma plus grande erreur. En 2023, c'est à 2 ans en arrière, le Seigneur il a commencé à venir révéler des choses dans mon cœur. À moi et à ma femme, il a commencé à déposer ce fardeau, ce fardeau dont je vous parlais au début. Il a commencé à me poser des questions. Il avait commencé à mettre le doigt sur quelque chose dans ma vie. Il n'est pas venu confronter une situation de péché dans ma vie, mais il est venu confronter la chose la plus importante de ma vie, en parlant du premier amour. Dans l'Apocalypse, au chapitre 2, vous pourrez le lire, je pense que c'est important de le lire, les versets 4 et 5. C'est l'Esprit qui parle à l'Église d'Éphèse, mais je veux juste vous lire les deux versets. Il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Et le Seigneur, il est venu parler à mon cœur par rapport à ça. En disant « Jérémy, ça fait des années que tu es dans la vie d'Église. Ça fait des années que tu me sers. Mais pourtant, tu as oublié, tu as perdu ton premier amour. Et c'est la plus grande erreur de ta vie. C'est d'avoir marché avec moi, mais d'avoir perdu cet amour-là pour moi. » Et pendant les mois qui ont suivi, Dieu est venu émonder ma vie. Vous savez, il est venu couper. Couper tout ce qui ne portait pas du fruit. Le Seigneur, il est venu me demander les choses qui étaient les plus importantes pour moi. Les choses auxquelles j'avais donné le plus de valeur de ma vie. Il est venu me poser cette question. Jérémy, es-tu prêt à mettre le ministère sur l'autel? Il faut savoir que depuis l'âge de mes 15 ans, c'était mon seul désir, c'était ça. Mon rêve, c'était de devenir pasteur jeunesse. Dieu avait accompli ça. Je suis devenu pasteur jeunesse. On est venu me chercher quand j'étais aux États-Unis pour être pasteur jeunesse au Gospel Center d'Oron. C'était mon rêve. Et toutes les paroles que je recevais sur ma vie étaient par rapport au ministère. Je savais que j'allais continuer l'héritage de mes pères et de mes mères. Je savais que j'allais. Et toutes les paroles étaient là. Et c'était l'accomplissement de ma vie, c'était ça. C'était de pouvoir rentrer dans le ministère. Et le Seigneur, il est venu me poser la question, « Jérémy, es-tu prêt à mettre le ministère sur l'autel ?» Et je dis, « Mais Seigneur, mais le ministère, c'est ce pourquoi tu m'as créé. Servir ton Église, servir ton peuple. Depuis que j'ai 15 ans, je reçois des paroles là-dessus. Seigneur, tu veux pas que j'entre dans mon appel, tu veux pas que j'entre dans ma destinée ?» Elle est venue me reposer. « Jérémy, es-tu prêt à mettre le ministère sur l'autel ?» Je dis, « Mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi ça spécifiquement ? Pourquoi le ministère ? Parce qu'au travers du ministère, je pourrais te servir et je pourrais me rapprocher de toi. » « Jérémy, es-tu prêt à mettre le ministère sur l'autel ? Est-ce que tu désires plus le ministère ou tu désires ma présence ? Est-ce que tu désires plus le ministère ou m'avoir moi dans ton lieu secret ? » Et pendant des semaines et des semaines et dans les larmes, j'ai mis petit à petit le ministère sur l'autel. Elle est venue parler par rapport à ce passage. On connaît tous cette histoire de Abraham et Isaac. Qu'Abraham, la prophétie qu'il avait reçue, qu'il serait un père d'une grande nation. Et Isaac est arrivé, son fils unique. Et Dieu est venu lui dire, est-ce que tu es prêt à mettre Isaac sur l'autel? Est-ce que tu es prêt à mettre les promesses et l'accomplissement des promesses sur l'autel pour m'avoir moi? Abraham, il n'a pas hésité, il est allé. Et là, prêt à sacrifier son fils Isaac. Et Dieu l'a arrêté. Et des fois, on pense qu'il y a des choses qui sont dans nos vies que Dieu nous demande de mettre sur l'autel. Mais on est tellement conscient de cette histoire-là qu'on se dit, c'est bon, le Seigneur m'arrêtera avant que je l'aie pleinement sacrifié. Hein? On connaît la fin de l'histoire. Mais non, pendant des semaines, le Seigneur il est venu me ramener à ça. Dire, est-ce que tu es réellement prêt à mettre le ministère sur l'autel? Au début, on dit, oui, Seigneur, prends le ministère, c'est bon. Tout en sachant qu'un jour, il va revenir. Mais non, c'est dans les larmes qu'il venait me répéter la même question, encore et encore et encore et encore. Il est venu me poser une autre question. Il m'a dit, est-ce que tu es prêt aussi à mettre ta maison sur l'autel? Mon rêve, j'ai fait aussi une formation designer d'intérieur, et c'était mon rêve, c'est d'avoir une maison. Mon rêve, c'est de pouvoir faire ça. Il me dit, est-ce que tu es prêt à ne pas avoir de maison? Je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que c'est important? Il me dit, est-ce que tu es prêt à vivre dans cet appartement où tu es, pour le restant de ta vie, mais tu m'as moi dans ton lieu secret? Et ça, c'est difficile, vous savez, quand il y a des désirs sur nos cœurs qui sont là, puis qu'on dit, ok Seigneur, je suis prêt. Et j'ai réellement, pendant des semaines, comme je l'ai dit, j'ai mis ça sur l'autel, au point où je me voyais dans une autre carrière, au point où même les portes s'ouvraient pour, dans le travail que je faisais, j'étais dans les cuisines, pas cuisinier, mais cuisiniste, donc je faisais des designs de cuisine, et les opportunités étaient là, mon chef me donnait des responsabilités d'équipe, de former les autres succursales, et c'était glorieux, je dis, ok Seigneur, pendant les 15, 20 prochaines années, je serai là-dedans, et c'est ok si jamais je retourne dans le ministère. J'ai mis ça sur l'autel parce que je ne voulais pas sauver ma vie. Parce que je ne voulais pas sauver mon appel. Parce que mon désir n'était pas de sauver ma destinée, ni de sauver les paroles prophétiques qui ont été prononcées sur ma vie. Combien d'entre nous on le fait? Combien de fois je l'ai fait? Dans les paroles, finalement, ont plus de poids que d'avoir Jésus et lui seul. Que toute la destinée que je vois dans ma vie, elle est devenue presque une idole. Parce que je suis plus intéressé à rentrer dans ma destinée que de l'avoir juste lui. Et Seigneur, garde-moi de chercher plus la destinée que de t'avoir juste toi dans le lieu secret. Que même si je suis caché toute ma vie, caché en toi, Jésus, que ça soit suffisant. Parce qu'à la fin de ma vie, j'aurai eu toi et toi seul. Et ça me va. Je veux que lui et c'est suffisant. Et il a fallu que Dieu vienne sonder mon cœur pour savoir si je l'avais vraiment mis sur l'autel. Jusqu'à la conférence, ça a pris des mois. Jusqu'à la conférence, on avait une conférence de notre mouvement Gospel Wave en 2023, novembre 2023. On avait deux orateurs, Johnny Nadon et son papa Jean-Christophe. Et Johnny, le samedi soir, il est venu, il a prêché un message extraordinaire et à la fin, il a libéré une parole. Et il a dit, l'année prochaine, à cette période-ci, vous aurez ouvert une école biblique à plein temps. Et c'était effectivement un désir de l'équipe apostolique depuis des années. Dieu n'avait jamais ouvert les portes. Et là, il a dit, c'est le temps. Et là, alors que j'étais dans cette salle, on était plusieurs centaines, tout d'un coup, première fois que ça m'arrivait, c'est comme s'il n'y avait plus aucun bruit dans la salle. Je n'entendais plus rien. Et j'ai juste entendu la voix de Dieu extrêmement fort dans mon cœur, où il a dit, Jérémy, c'est toi qui vas être le directeur de cette école. Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de ça. J'ai 1000 ministères sur l'autel, je n'ai en aucun cas besoin de ça. Et je dis, mais Seigneur, si c'est vraiment toi, et que tu m'appelles, tu dois confirmer ça, parce que je ne cherche absolument pas ça, et j'aurais plutôt tendance à courir dans l'opposé pour ne pas retomber là-dedans. Et je dis, Seigneur, si c'est toi, tu dois le confirmer, mais tu dois le confirmer vite et de manière précise. Et il a fini cette parole et il a dit, maintenant, vous pouvez venir devant, on va prier pour vous. Et je me suis approché directement de son papa, Jean-Christophe, qui était l'autre orateur. Et Jean-Christophe s'est retourné vers moi, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, Jérémy, cette parole, elle est pour toi. C'est toi qui vas être le directeur de cette école-là. Et je dis, ok, Seigneur, alors si c'est vraiment ça, je serai prêt à tout sacrifier. Et ça a été confirmé par l'équipe apostolique, ça a été confirmé par différentes personnes. Mais la parole de Dieu, elle continuait de résonner dans mon cœur. Jérémie, ne perds pas ton premier amour. Entre par la porte étroite. Et j'ai décidé, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon travail, plus aucun salaire. Ça change hein, quand on est... Vous savez, quand on est dans le business, ça paye mieux qu'à l'église. Alléluia. Mais j'ai dit, ok. Et on a commencé à... C'était pour ça aussi que Dieu est venu me poser la question par rapport à la maison. Parce que tout ce qu'on avait économisé depuis des années, on a vu commencer à prendre, et prendre, parce qu'il n'y avait plus de salaire, et prendre. Et Dieu bénit, et Dieu bénira, et je n'ai aucun problème avec ça. Mais Dieu, après une année, on a commencé cette école-là. Bah, Timothy et Mathieu faisaient partie de la première volée. Aujourd'hui, on a fait notre deuxième volée. En tout, On a 39 étudiants et c'est glorieux. Mais je reste avec cette conviction sur mon cœur. Jérémy, tu dois rentrer par la porte étroite. L'appel que nous recevons au début de notre vie chrétienne, il s'intensifie. Mourir pour vivre. Notre faim de plus doit continuer à grandir. Notre désir, notre soif de la parole doit être insatiable. De juste regarder à lui. Et plus on avance dans notre vie, plus on ose dire, Jésus, c'est pour toi que je veux vivre et que pour toi. Je dois être prêt à renoncer à tous mes péchés. Paul nous exhorte dans Éphésiens 5. Il dit qu'aucune espèce d'impureté ne soit mentionnée, même mentionnée au milieu de vous. Seigneur, il est venu me parler là-dessus. Et Jérémy, quelles sont les choses qui sont encore mentionnées dans ta vie? Même pas pratiquées, mentionnées. L'appel de nos vies, cette vie qu'on doit passer par la porte étroite, il vient tout nous demander. Il vient tout rechercher. Il y a quelque temps, j'ai terminé mon deuxième jeûne cette année de 20 jours. Et les gens sont venus me féliciter, m'ont dit bravo, jamais je pourrais faire ça. Moi, je n'étais jamais fait pour jeûner, je peux vous dire. Quand j'étais en menuiserie, en apprentissage, je mangeais un cake en entier pour les 9 heures. Et puis si je n'avais pas mangé à 10 heures, ma main tremblait. Je n'étais pas fait pour jeûner. Mais j'ai appris qu'en fait, la seule réponse logique pour ma vie, c'est de me mettre à genoux devant Dieu et de jeûner et prier. Que la seule façon que j'ai de garder ce premier amour dans ma vie et de continuer d'avoir une vie en feu où j'aime Jésus tous les jours, c'est de me mettre face à lui et dire « Jésus, j'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin de te chercher, toi et toi seul. » Et jeûner, c'est qu'une réponse logique. Juste pour faire mourir ma chair et tous les désirs, de tout ce qui est dans mon cœur qui ne viennent pas de toi. Alors en même temps, je dois acheter des ceintures parce que je perds mes pantalons. Mais gloire à Dieu pour ça. Je n'ai plus besoin du summer body, je fais juste un jeûne. Mais c'est une vraie réalité qu'il y a une faim en nous qui doit grandir de plus. Et on n'a plus le luxe de pouvoir laisser toutes ces choses du passé dans nos vies, toutes les choses dans nos vies qu'on sait qu'on doit laisser. On n'a plus le luxe de pouvoir laisser ces choses, qu'aucune impureté ne soit mentionnée au milieu de vous. Vous savez, ces choses des fois qu'on laisse malgré nous, parce qu'on est dans une culture qui permet ça. Aujourd'hui, on est dans la fête des vendanges. Vous connaissez le ver de Troie? Hein? Le ver de Troie, le Seigneur, il est venu m'en parler. Je ne parle pas d'ivrognerie, je ne parle pas d'être caisse ou quoi que ce soit. Vous savez, ce petit ver de Troie. Seigneur, garde-moi de pouvoir juste être aligné à ta parole et que ma vie puisse être droite devant toi. Qu'alors que j'avance, cette porte étroite, elle devient de plus en plus petite. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire derrière. Dernièrement, on avait une retraite cette semaine avec tous les étudiants. On était à Saint-Loup. Vous connaissez Saint-Loup? Allez-y, c'est glorieux. Ces sœurs qui prient, c'est magnifique. La gloire de Dieu dans ce lieu. Et le Seigneur est venu me parler sur quelque chose de très précis. Vous savez, on est dans le premier bloc avec les étudiants de première année. Le premier bloc qu'on vit, c'est pendant les 3 premiers mois, c'est le cœur du Père. On veut vraiment qu'ils aient la révélation de l'amour du Père. Et c'est ce qu'on désire dans les églises, c'est ce qu'on désire dans nos vies, de savoir, de réaliser. Moi, c'est ma prière, Seigneur, montre-moi, couvre-moi de ton amour. Et le Saint-Esprit, il est venu me parler, il m'a dit, Jérémy, depuis trop longtemps, l'Église a cherché à avoir accès au cœur du Père à travers une liste de chants et une atmosphère. Mais la Bible, elle déclare, Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, le seul chemin vers le cœur du Père est la révélation que nous sommes fils et filles passe par Jésus. Il m'a dit, depuis trop longtemps, Jérémy, l'Église a essayé de passer par la porte de derrière pour avoir accès au cœur du Père par l'émotion. Mais non, la seule porte qui permet l'accès à cette révélation de l'amour de Dieu, c'est par Jésus et la porte étroite. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette porte étroite, elle ne nous permet pas de rentrer avec toutes nos chaînes du passé. Elle ne nous permet pas de rentrer avec notre honte, notre condamnation, toutes les choses qui s'attachent à nous depuis trop longtemps, toutes les habitudes mauvaises qu'on a envie de lâcher. La porte étroite, elle est glorieuse. Parce que la seule chose qu'on peut faire face à elle, On pense dans nos têtes que cette porte étroite, c'est qu'un seul sacrifice, un sacrifice continuel. Oui, ça l'est. Mais c'est cette glorieuse porte étroite qui nous invite à tout laisser de côté. Et dire, Seigneur, moi je veux rentrer dans ce que tu as pour moi. Mais ça demande que je laisse mon passé. Ça demande que je laisse ma honte, la condamnation. Ça demande que je laisse toutes les petites choses dans ma vie qui ne portent pas de fruits, qui sont inutiles pour moi. Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir entrer par cette porte étroite. Parce que derrière cette porte, c'est la révélation du cœur du Père. C'est la vie en Jésus. C'est l'avoir lui et lui seul. Et je crois qu'il y a un appel pour chacun d'entre nous à repasser par cette porte étroite, à repasser par ce moment-là où continuellement, jour après jour, comme dit la parole, on se charge de notre croix. La croix, c'est le symbole de l'obéissance jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Et Jésus dit, prends cette croix chaque jour comme un symbole de ton obéissance jusqu'à la fin, que tu vas continuer chaque jour à te réaligner devant moi. Ce matin, j'aimerais faire cet appel à tous ceux qui peut-être ici sont pour la première fois dans une église, ou peut-être tu es là depuis plusieurs fois, peut-être tu as même grandi dans l'église, mais tu n'as jamais fait ce choix-là de pouvoir rencontrer ce merveilleux Jésus. Est-ce que je pourrais avoir le pianiste, hein? C'est possible. Merci. Et je vais faire cet appel-là, je vais vous demander de fermer vos yeux. Je vais faire cet appel-là à tous ceux qui n'ont jamais encore pris la décision de suivre Jésus-Christ. Si tu n'as jamais pris la décision de lui donner ta vie et de recevoir en échange sa justice, son pardon, sa grâce, sa sainteté, sa vie éternelle. Dans 1 Pierre 1, 18, il dit, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » On l'a chanté durant la louange, ce sang précieux de Jésus, qui est là et qui vient nous racheter. Le sang précieux de Jésus, c'est la substance la plus puissante qu'il y a sur cette terre. Il n'y a pas d'autre. Elle te permet d'être transformé, d'être libéré de ton passé. Elle te permet d'être délivré de la malédiction et de la mort. Et si tu souhaites aujourd'hui prendre cette décision-là, je ne vais pas passer par quatre chemins parce qu'il n'y en a pas quatre. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, ce n'est pas un concept. Le chemin, ce n'est pas une religion. Le chemin, c'est une personne. Je suis la vérité. La vérité, ce n'est pas un concept. La vérité, c'est une personne. La vie, c'est une personne. Et ce matin, si c'est toi dans ce lieu et tu sais, tu as besoin de prendre cette décision, je t'invite à venir devant, rapidement. Je ne vais pas enrober l'appel avec quoi que ce soit parce que c'est un appel radical. C'est un appel à se mettre devant Christ et dire, Jésus, je te choisis, toi. Et ce que j'ai besoin, c'est toi, c'est ta vie. Donc si c'est toi ce matin, je t'invite à venir devant. Viens devant si tu veux prendre cette décision-là. Il faut toujours un courageux qui vienne le premier. Seigneur, il appelle plusieurs d'entre vous ce matin à consacrer votre vie, à recevoir cette vie nouvelle. Je sais qu'il y en a d'autres ici qui ont besoin de prendre ce choix-là. Dire, Jésus, je dois tout te donner. Et j'invite à venir devant pour qu'on puisse prier ensemble et que je puisse prier pour toi et t'imposer les mains pour qu'aujourd'hui tu repartes sans avoir les chaînes du passé. Tu puisses te repartir en étant libre, réellement libre. Bravo. Venez, approchez-vous. Aujourd'hui, il y aura un avant et un après. C'est cette vie de Christ qui, même si on ne comprend pas tout aujourd'hui, elle vient faire quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Bravo. Je sais qu'il y en a d'autres. Et je prends le temps juste d'attendre parce que c'est une opportunité unique et extraordinaire. Peut-être qu'il y a des enfants, les enfants ils sont à l'accueil, même si c'est des plus petits. L'opportunité, elle est pour elles, ou pour eux aussi, parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit junior, amen. Le même Saint-Esprit qui vient faire son œuvre. Je sais qu'il y en a encore. Venez devant, j'ai envie de prier avec vous. La Bible déclare, aujourd'hui est le jour du salut. Si tu entends sa voix, n'endurcis par ton cœur. Je vais encore attendre quelques secondes. Je sais qu'il y a encore quelqu'un. Je le sens dans mon esprit, il y a encore quelqu'un. Peut-être ton cœur bat très fort et tu sais que c'est toi. Viens devant, ne manque pas. Ne manque pas cette décision, cette opportunité-là. Cette décision, c'est la plus belle décision de ta vie. Et c'est une décision que personne d'autre ne peut prendre que toi. Ni ton pasteur, ni ta femme, ni ton mari, ni ton copain, ni ta copine, ni ton ami, ni personne ne peut prendre cette décision pour toi. Et laisse-moi te dire que cette décision, elle est urgente. Parce que la réalité, c'est qu'on ne sait pas où on sera demain. Et ça rend cette décision urgente. Aujourd'hui est le jour du salut. Je vais vous inviter, alors qu'on va prier ensemble avec tous ces frères et sœurs qui vont rejoindre la famille de Dieu, si vous êtes d'accord qu'on puisse répéter tous ensemble cette prière. Il n'y a pas de magie dans la prière, mais c'est une déclaration que l'on fait avec foi de recevoir sa vie. Vous êtes d'accord qu'on puisse dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour le sacrifice de la croix. Je te remercie d'avoir donné ta vie pour sauver la mienne. Et aujourd'hui, je veux déclarer que je te reconnais comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je renonce à ma vie de péché. Je renonce à mes faux et mauvaises habitudes. Et je reçois ta vie en échange. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens et tu m'appartiens. Et je reçois ce merveilleux Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, qui témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et je déclare que toute malédiction, que tout esprit mauvais qui se sont attachés à ma vie n'ont plus aucun droit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Et je prends l'autorité maintenant sur toutes les choses qui vous sont attachées à vous. Dans le nom de Jésus. Je vous rends libre par le précieux sang de Jésus. Par le précieux sang de Jésus. Mère Saint-Esprit, parce que tu libères aujourd'hui des chaînes du passé. Tu libères maintenant. Je sens certains, vous êtes battus avec des addictions depuis des années. Ces addictions, elles sont brisées aujourd'hui. Et la pureté de Dieu qui vient sur vos vies. La pureté de Dieu qui vient sur vos vies. Maintenant. La Bible déclare que toutes choses sont faites nouvelles. Toutes choses sont faites nouvelles aujourd'hui. Toutes choses sont faites nouvelles. Les chaînes du passé tombent maintenant dans le nom de Jésus. Les chaînes du passé tombent maintenant. Et je te rends libre maintenant. Libre maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens. Baptise maintenant. Baptise de quelque chose de nouveau, Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce merveilleux Saint-Esprit qui est là. Merci Jésus. Et je veux faire rester devant tous ceux qui sont là. Restez devant. Et je veux faire cet appel pour tous ceux qui sont là dans cette salle et qui ont besoin de repasser par cette porte étroite. La repentance, laissez-moi vous dire quelque chose. La repentance, c'est un don. C'est un don. Ce n'est pas quelque chose qui est peut-être comme on l'a vu, quelque chose qui est où on doit être systématiquement dans les larmes et dans les pleurs et dans le regret. Non, la repentance est un don et c'est une bonne nouvelle. Et sachez-le, la repentance, c'est un vent qui souffle dans une pièce et on peut choisir de le saisir ou de les laisser passer. La repentance, c'est quelque chose qui vient sur nos vies à un moment donné et qu'on peut choisir d'accueillir pleinement comme cette grâce de Dieu, ou alors on peut choisir de le rejeter et dire « c'est pas pour moi, c'est pas pour aujourd'hui ». Mais sachez-le, ça ne revient pas tout le temps. Et cette grâce-là de repentance, de dire « Seigneur, quel privilège de pouvoir abandonner mon péché, de pouvoir me repentir de ces choses-là pour être libre et pour passer par cette porte étroite. La repentance, c'est se décharger de la honte, de toutes les choses qui sont dans les ténèbres et de les mettre à la lumière. La repentance est une bonne nouvelle. Et je veux inviter tout le monde à pouvoir faire ce chemin-là. Pourquoi je dis tout le monde? Parce que ce n'est pas réservé à l'un ou l'autre. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, leader d'église dans le conseil ou quoi que ce soit que tu es plus saint qu'un autre. Nous sommes saints car il est saint. Nous sommes saints car il nous permet d'être saints en nous déchargeant de tout ce qui nous pèse, toutes les choses qui sont dans l'ombre et dans la crainte de Dieu qui dépose sur nos vies. Nous disons, Seigneur, je veux mettre à la lumière ces choses-là. Je veux mettre à la lumière et je veux pouvoir passer par cette porte étroite. Je veux passer par cette porte étroite et me libérer de toutes ces choses-là. Et si c'est toi aujourd'hui, je t'invite à venir devant. À venir devant, juste comme un signe de dire, Seigneur, c'est devant toi que je mets ce péché-là. Peut-être tu dis, oui, mais c'est suffisant, je peux le faire. Je peux le faire seul dans mon lieu secret. Bien sûr, il y a de la gloire de le faire seul devant Dieu. Mais il y a aussi une réalité de se mettre devant Dieu, devant l'Assemblée, et dire, Seigneur, on n'est pas en train d'exposer le péché. Non, non, au contraire, on est en train de le mettre à la lumière pour qu'il vienne nous libérer et de le faire devant témoins et dire aujourd'hui, alors que je viens devant, je veux déclarer à ce péché, au pouvoir de la mort, au pouvoir de l'ennemi, qu'il n'a plus de pouvoir sur moi, que je suis déchargé de ces choses-là. Donc si c'est toi aujourd'hui et tu sens que tu dois faire ce chemin-là, je vais t'inviter, est-ce que vous êtes d'accord de tous vous lever? Juste pour vous donner l'opportunité d'avoir les jambes qui sont déjà dégourdies. Hein. C'est une opportunité extraordinaire parce que la repentance est quelque chose de glorieux. Et aujourd'hui, c'est un temps pour la repentance. Ici, on est dans l'église passion. Et la passion pour Dieu, c'est de dire, Seigneur, je veux vivre sans aucune chaîne du passé. Montre-moi ce que je dois lâcher. Montre-moi et libère-moi. Et vous êtes d'accord qu'on se mette à genoux ensemble? Parce que cette grâce de Dieu, elle est là dans cette pièce. Peut-être que tu vas pleurer sur ton péché et c'est OK. Peut-être que le Saint-Esprit va t'amener juste à épandre ta tristesse devant lui. Chaque jour, j'apprends à pleurer sur mon péché, à pleurer sur toutes les choses qui m'empêchent d'être proche de Christ. Ça a été dit pendant la louange. Pardonne-nous pour toutes les fois où on s'est senti indigne de rentrer dans ta présence. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai senti que mon péché me retenait, en fait, mon péché me retenait de pouvoir me mettre devant toi. Dieu, il vient restaurer ce qu'on vivait dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève avaient cette opportunité extraordinaire de pouvoir regarder dans les yeux du Père sans avoir aucune honte et sans aucune condamnation sur leur âme. Et c'est ce merveilleux Saint-Esprit, grâce au sang de Jésus, qui vient restaurer cette réalité-là. Et aujourd'hui, je suis invité à pouvoir le dire avec témoin, à dire, Seigneur, pardon. Pardon pour ces choses-là, pardon pour toutes mes habitudes que je sais qui sont mauvaises pour moi, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je me repens de cela. Pardon pour mon péché, pardon pour mon impureté. Pardon d'avoir jugé mon frère. Pardon d'avoir dit du mal sur mon pasteur. Pardon d'avoir critiqué mes leaders, d'avoir critiqué mon église. Pardon d'avoir critiqué mes collègues, de m'être associé avec ceux qui critiquent. C'est-à-dire de ne pas avoir tenu, de ne pas avoir pris position face à la critique, face au jugement. Seigneur, pardonne-moi pour toutes ces choses-là et donne-moi la grâce de pouvoir être lavé de ces choses-là, de pouvoir être purifié. Seigneur, merci pour l'œuvre extraordinaire que tu fais, ce don de repentance qui nous permet d'entrer dans la présence et comme Hébreux 4 le dit, que nous puissions nous approcher avec audace du trône de Dieu aujourd'hui. Nous nous approchons avec audace du trône de Dieu en mettant aux pieds de Jésus tout ce qui nous empêche de vivre la vie qu'il a pour nous, la vie en abondance. Seigneur, merci, parce que tu lèves une génération d'hommes et de femmes qui te connaissent intimement, qui chaque jour choisissent de prendre leur croix, qui chaque jour choisissent de passer par cette porte étroite, qui chaque jour ont comme seul désir de t'aimer toi et toi seul. Seigneur, viens ranimer dans nos vies, viens ranimer dans ma vie, jour après jour, ce premier amour. Que jamais je l'oublie, que chaque fois que je me suis dans ta présence, que je me rappelle que je suis là pour t'aimer. La louange, l'adoration, c'est pas à propos de nous, c'est à propos de Jésus, c'est à propos de lui. Parce qu'il est merveilleux, combien de fois on a tendance à tout ramener par rapport à nous, à tout ce qu'il peut faire pour moi. Merci Seigneur pour ta présence, parce que tu fais ça. Non, non, Jésus, merci pour qui tu es, par ton sang versé. Merci pour la communion de l'Esprit. Merci pour la communion des saints. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Et Seigneur, anime en moi ce premier amour, que jamais il ne me quitte, que jour après jour, alors que je lis ta parole, que je me nourris dans cette intimité avec toi, que tu viennes ranimer ce premier amour. Que jamais il ne s'éteigne, Seigneur. Que jamais il ne s'éteigne. Et je prie, Seigneur, pour ce premier amour qui tombe sur chacun de nous maintenant dans le nom de Jésus. Et que durant les prochaines semaines, que vous soyez littéralement tourmentés par le premier amour. Qu'il ne vous lâche plus, ni dans vos pensées, ni dans votre âme, et même pour certains dans votre corps. Que ce premier amour vienne brûler comme un feu. Brûler comme un feu. Alors que nous sommes face à Dieu et que nous mettons notre vie sur l'autel. Ça a été dit durant le temps de prière que Dieu envoie, comme avec Élie, il envoie son feu sur le sacrifice. Seigneur, tu envoies ton feu aujourd'hui, alors que nous mettons nos vies comme un sacrifice vivant. Nous mettons nos vies sur l'autel. Et je prie, Seigneur, que ton feu vienne nous saisir. Merci, Saint-Esprit. Et je crois aussi aujourd'hui que certains d'entre vous, vous allez être libérés aussi de la peur des hommes, la peur du qu'en dira-t-on, qu'alors que ce premier amour vient émerger en vous, vient brûler en vous. La peur du regard des autres va disparaître. Et je veux maintenant menacer toutes ces peurs dans le nom de Jésus et déclarer qu'elles n'ont aucun pouvoir sur votre vie. Aucun pouvoir sur votre vie. Que la seule chose qui viendra habiter vos vies, c'est la crainte de Dieu et non la crainte des hommes. Il n'y aura plus ces peurs de dire « si je dis ça, on va me juger. Si je dis ça, on va me regarder différemment. » Non, ce premier amour va brûler en vous et libérer quelque chose de nouveau. Libérer quelque chose de nouveau. Où la seule chose qui peut se passer, c'est que vous avez besoin de témoigner de l'amour de Dieu aux gens qui vous entourent, à vos collègues, à votre famille. Et je prie maintenant que ce baptême de feu, le baptême de feu qui vient transformer un Pierre qui a renié 3 fois Jésus en un Pierre qui va prêcher avec feu et qui amène 3000 nouvelles personnes à Jésus en un jour. Seigneur, ce baptême de feu, ce même baptême de feu qui est tombé sur tous les disciples dans la chambre haute, veut venir aussi ici aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et je prie maintenant qu'il puisse être déposé sur vous, sur tous ceux qui ont faim et soif, tous ceux qui ont faim et soif d'être libérés de la crainte des hommes. C'est aussi quelque chose, c'est une grâce de pouvoir se repentir de cette peur des hommes, de se repentir de toutes les fois où on a eu peur de ce que les autres vont dire, d'être regardé, jugé différemment. Alors que vous êtes dans le bus, dans le train, qu'importe, dire « ah non, si je dis ça, on va me juger, on va me rejeter, on va... » Qu'importe. Que le baptême de feu tombe maintenant, ici dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, viens Saint-Esprit, fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Mère Saint-Esprit, il y a une personne ici au fond de la salle. Vous êtes venu, vous avez des douleurs au niveau du dos. Je vois spécialement, j'ai l'impression que c'est plus que musculaire, c'est au niveau aussi des nerfs. Qui est cette personne qui a des douleurs au niveau du dos, là-bas au fond? Pose ta main simplement sur ton dos et dans le nom de Jésus, maintenant, je commande à toute douleur et toute tension qui sont là, de partir maintenant dans le nom de Jésus. Dieu est en train de libérer maintenant de toute douleur, de toute douleur. Mère Saint-Esprit, il y a une personne ici, vous êtes venu avec un torticolis. Qui est cette personne-là? Je vois un torticolis, quelqu'un qui a un torticolis. Vous n'arrivez pas à bouger assez suffisamment votre nuque. Restez dans la présence de Dieu, il veut guérir aujourd'hui. Qui est cette personne? Levez la main rapidement. Vous avez des problèmes au niveau du mouvement, peut-être c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps. C'est vous? Mettez votre main sur votre nuque, dans le nom de Jésus maintenant. Je commande à toute tension qui est là, dans le nom de Jésus, de disparaître maintenant et au mouvement de revenir. Maintenant, essayez de bouger votre nuque. Comment ça va? Il n'y a plus rien? Un tout petit peu, dans le nom de Jésus maintenant. Toute douleur qui reste maintenant, dans le nom de Jésus, je commande de partir maintenant. Je vois aussi une autre personne ici, vous êtes là, vous avez un problème au niveau d'une cheville. Je ne sais pas si c'est à cause que vous êtes foulé la cheville de manière répétitive, mais vous avez perdu du mouvement au niveau d'une cheville. Qui est cette personne-là? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est devant. Qui est cette personne-là? Problème au niveau des chevilles, c'est vous? Est-ce qu'il y a une autre personne qui a un problème au niveau des chevilles? Ta maman, alors on va aussi prier pour ça. Ok, mettez votre main sur votre cheville. Dans le nom de Jésus maintenant, je commande aussi à tout ce qui a été endommagé. Tout ce qui a été endommagé maintenant, j'opère dans l'esprit ce miracle de restauration dans le nom de Jésus. Je déclare, je commande à toutes ces douleurs de partir, au mouvement de revenir complètement dans le nom de Jésus. Essayez de bouger vos chevilles. Essayez de bouger, commencez à tester. Le Saint-Esprit, il est là aussi avec la guérison. Je vois qu'elle est dans ce lieu. Je ne sais pas à quelle heure on doit finir. Bon, je prie pour les malades. Et si vous voulez partir, soyez bénis. Bonne fête des vendanges. Mais je vois aussi, il y a une personne ici, vous êtes venu, vous avez un problème au niveau d'un tunnel carpien. Qui est cette personne-là? Qui est cette personne? Vous avez des douleurs au niveau du tunnel carpien. C'est toi? Saint-Esprit, maintenant, dans le nom de Jésus, je commande à ce tunnel d'être complètement restauré. Tout ce qui est là, toutes les douleurs qui sont là, de partir dans le nom de Jésus. Maintenant, maintenant, dans le nom de Jésus. Mère Saint-Esprit, Mère Saint-Esprit, merci Jésus pour ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu veux guérir aussi. Non seulement ton sang, il est suffisant pour venir transformer le monde, nos vies, mais ton sang est suffisant pour venir nous guérir. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et aujourd'hui, il y a la guérison qui est disponible dans ce lieu. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Il y a une autre personne, je vois en tout cas deux personnes, vous êtes là, et vous avez des problèmes au niveau des épaules. Vous avez un problème de mouvement au niveau des épaules. Qui sont ces personnes-là? Là, il y en a une autre personne ici, voilà. Dans le nom de Jésus. Ok, mettez votre main sur votre épaule. Dans le nom de Jésus. Maintenant, je commande au mouvement de revenir. Les douleurs partent dans le nom de Jésus. Partent dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une d'entre vous, vous êtes cassé la clavicule? Et c'est à cause de ça aussi que vous avez perdu. Vous avez perdu le mouvement? Quelqu'un qui s'est cassé la clavicule par rapport à ça? Et vous avez des douleurs à cause que vous êtes cassé une fois la clavicule? Non? Ok, je sens qu'il y a une personne ici, vous êtes cassé une fois quelque chose, un accident, je ne sais pas à quel niveau. Seigneur, vous aussi restaurer ça complètement, comme s'il veut aussi restaurer tout ce qui est de l'ordre du toucher, en fait. Vous avez perdu les sensations. Et c'est quelqu'un, vous avez eu un accident ici, je sens qu'il y a une personne, vous avez eu un accident, vous avez perdu, je ne sais pas à quel niveau dans le corps, mais vous avez perdu la sensation. Même sur votre peau, vous n'avez plus de sensation à un endroit sur votre corps. Qui est cette personne-là? Dieu veut venir restaurer ça. Qui est cette personne-là? Ok, des fois, je sais. Et cette fois-ci, je sais. Et chaque fois, les gens viennent près vers moi à la fin du culte. Ils me disent, c'était moi. Puis je leur dis, c'est trop tard. Non, c'est pas vrai. Mais si c'est vous, levez la main rapidement. Et le Seigneur veut guérir. Et je sais que le temps avance. Alors, je demande simplement à tous ceux, si vous avez des douleurs dans votre corps, vous pouvez simplement mettre votre main là où vous avez mal. Et cette puissance de guérison qui est là va venir agir aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, mais peut-être aussi Timothy, Mathieu, si vous pouvez les prier pour les gens. Levez la main aussi si vous avez besoin de guérison. Saint-Esprit veut faire cette œuvre-là aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, maintenant, je prends autorité. Que tout esprit de maladie est infirmité. Dans le nom de Jésus, tout esprit de maladie est infirmité qui vous ont tenu depuis trop longtemps. Dans le nom de Jésus, je vous rends libre et je commande maintenant une guérison complète sur vos corps. Je commande à la douleur de partir, à la douleur maintenant de partir, une restauration. Je vois une dimension du miraculeux, du miracle créatif aussi qui veut venir prendre place sur des choses peut-être qui sont parties. Peut-être c'est au niveau du cartilage, au niveau des muscles ou quoi que ce soit. Dieu veut venir restaurer des parties manquantes dans votre corps maintenant dans le nom de Jésus. Mère Saint-Esprit, peut-être quelqu'un et vous êtes venu ici, vous avez eu une fois un accident, vous êtes tapé la tête et depuis vous avez perdu en partie la mémoire. Vous avez perdu en tout cas une dimension de la mémoire peut-être à court terme. Qui est cette personne? Dieu veut venir restaurer aussi vraiment le cerveau. Il veut venir restaurer votre cerveau ici aujourd'hui. Si c'est vous, recevez simplement, mettez votre main sur votre tête et dans le nom de Jésus, tu viens restaurer toutes choses maintenant. Dans le nom de Jésus. Mère Saint-Esprit, pour l'œuvre merveilleuse que tu fais aujourd'hui et que nous saisissons. Et si vous avez reçu pour la prière, pour la guérison aujourd'hui, gardez cela dans la foi. Déclarez-le chaque jour. Si vous avez vécu une percée dans votre corps, déclarez-le chaque jour. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas juste une atmosphère. Non, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et cette guérison vient prendre place profondément dans les vies. Amen. Dans le nom de Jésus, amen. Mère Saint-Esprit.
Merci Jérémy. Merci Seigneur, surtout. Je crois qu'on est tous un peu touchés dans nos émotions et dans nos corps. On va prendre juste un passage d'un chant pour conclure, pour se saisir vraiment de cette vie en abondance que Dieu veut nous donner. Et après, on va passer à la suite.